Monseigneur, de nous accueillir ici à la Conférence des évêques de France pour cette présentation de l'institution, ses fonctionnements, son organisation, également de ce qu'est la vie des catholiques en France, puisque vous êtes à travers cette institution dont vous êtes le secrétaire général, très, très au fait finalement de la vie des catholiques sur le territoire de la vie de l'Église. Je n'en dis pas plus pour vous présenter. Les auditeurs ont eu une petite présentation qu'on a copiée sur le site web
de
la Conférence des évêques de France. Voilà, encore un grand merci à vous. Et puis,
merci beaucoup. Merci. Je suis très heureux de pouvoir vous rencontrer. C'est pas moi de le dire, mais je le dis quand même. Moi, je me réjouis du temps de formation que vous prenez, parce que c'est aussi un enjeu, évidemment, pour les laïcs nombreux qui sont engagés dans l'Église, que ce soit bénévolement ou salariés, on en dira un mot tout à l'heure, mais aussi pour les prêtres ou les évêques, peut-être même le pape. Mais en tout cas, voilà, la question de la formation permanente, c'est d'ailleurs un des sujets vraiment de... Actuellement, on réécrit ce qu'on appelle la ratio, c'est-à-dire un texte donné par Rome pour l'Église universelle, que chaque conférence épiscopale, donc chaque pays, doit traduire, si on peut dire, pour sa propre réalité. On ne forme pas des prêtres de la même, mais pas de la même manière qu'on soit en Afrique, en Asie ou en France. Et donc, voilà, c'est un des enjeux de formation, donc aussi pour nous, et moi je me réjouis qu'avec les vies chargées que vous avez, avec vos responsabilités, eh bien, que vous puissiez prendre ce temps. Et merci évidemment aussi particulièrement de vous arrêter ici dans cette maison, qui est une ancienne maison de religieuse, les sœurs du Cénacle, consacrée en France, et reste vivante, mais avec quelques difficultés aussi de jeunes personnes qui rejoignent ces communautés. Et du coup, la communauté du Cénacle avait décidé il y a une vingtaine d'années de quitter le lieu pour se redéployer autrement. Et il y avait 14 sites alors où étaient répartis les différents services de l'Église de France, et le choix a été fait de se mettre ici. Je pense que les sœurs étaient aussi contentes que ça ne devienne pas un hôtel de luxe, ou même si c'est, vous avez vu, c'est beau. C'est vrai que le beau participe à la présentation de soi. C'est pas forcément luxueux, le beau d'ailleurs, mais voilà. Donc c'est vrai que c'est une maison fonctionnelle. Là aussi, au bout de 15 ans, il y a des nouvelles problématiques, en particulier en ce moment liées à la Covid, mais pas que. Et donc, Charlotte qui a vraiment préparé cette rencontre avec vous.
Merci, Charlotte.
Oui, vraiment.
Je vous remercie.
Voilà, très, très précieuse. Et puis, voilà, alors Charlotte et moi, nous avons pensé à plein de petits cadeaux qu'on pouvait vous faire. Donc, on vous a laissé quelques littératures que vous pourrez lire par la suite. Je suis très heureux. Bon, bien sûr, j'ai préféré une présentation, mais je veux vraiment qu'on ait aussi du temps pour un échange. Je pense qu'il y a beaucoup de choses, il y a sans doute aussi des questions, des choses qu'on peut vraiment se approfondir dans l'échange. Alors, j'ai une bonne connaissance. Oui, je suis arrivé au 1er septembre quand même. Donc, voilà, j'ai été nommé, élu au 1er septembre. Secrétaire général, un peu mon parcours. Moi, je suis de la région parisienne, de l'ouest de Paris, dans les Hauts-de-Seine. Et après des études de commerce et puis un service militaire qui m'a beaucoup marqué chez les sapeurs-pompiers à Paris, le début d'une vie professionnelle et puis la question du sens de ma vie, une redécouverte aussi d'une relation plus personnelle avec le Christ, de mieux comprendre aussi ce que c'était qu'un prêtre. Alors j'étais engagé, mais pas tant que ça. Et voilà, toutes ces raisons ont fait que je me suis posé la question, j'ai entendu en tout cas un appel. Et donc je suis à ce moment-là rentré au séminaire. Et donc depuis 20 ans que je suis prêtre, 10 ans en paroisse, aumônier de jeunes, dans l'aumônerie de lancement public. Moi-même j'étais plusieurs années au lycée ou au collège public. Et voilà, vicaire de paroisse, et puis après curé, donc dans des paroisses plutôt de l'ouest parisien, paroisses malgré tout quand même aussi un peu mélangées. Et puis ces 10 dernières années, comme vicaire général. Donc vicaire général, c'est l'adjoint d'un évêque. Un évêque, il y en a un par département, je vous en parlerai tout à l'heure. Et vicaire général, c'est l'adjoint, c'est... Je ne sais pas si on parle en termes politiques, il y a quelques politiques parmi nous. Ça pourrait être le premier ministre du président, mais là, la comparaison n'est pas forcément la meilleure. Mais voilà, c'est un petit peu ça. Donc c'est vrai qu'en vicaire général, bah, on est associé à la vie d'un diocèse, des joies, des difficultés, des complexités. Et alors j'avais demandé au bout de 10 ans, c'est vrai que j'étais vicaire général de 3 évêques, un petit qui est devenu archevêque de Paris et mon cher actuellement de Nanterre, de Haute-Seine, mon cher Mathieu Rouget. Et voilà, au bout de 10 ans, j'avais envie de changer. En général, les missions dans l'Église catholique, ce sont des missions pour un temps donné, ce qui est très bien, pour 3 ou 6 ans ou 9 ans, mais habituellement on ne reste pas 25 ans dans le même lieu. Alors bien sûr, les paroissiens sont très tristes quand ça se passe mal, et puis ils sont très malheureux quand ça se passe bien, et très heureux quand ça se passe mal. Mais en tout cas, voilà, c'est bien, je crois, d'avoir un temps donné pour nous-mêmes et pour les communautés. Parce que c'est vrai quand on arrive dans un lieu, on a un regard neuf, etc. Et j'avais demandé donc à revenir plutôt en paroisse. D'ailleurs, j'avais demandé un diocèse autre. Je connais essentiellement un diocèse urbain, très, très peuplé, 1,6 million d'habitants, d'où je viens, Nanterre, et en même temps, c'est tout petit, hein, c'est la taille de l'île d'Oléron, les Hauts-de-Seine. Mais voilà, j'étais en lien avec un diocèse de province, donc dans une situation tout à fait différente de celle que j'ai pu connaître. Et puis, voilà, il se trouve que le précédent secrétaire général a trouvé... il a parlé d'un tourbillon qu'il avait saisi en arrivant ici. Donc j'essaie de ne pas être dans de résister un peu au tourbillon. Mais voilà, donc j'étais disponible et j'ai dit oui pour cette mission. Voilà quelques mots de présentation. Et c'est vrai qu'il y a eu des moments difficiles depuis 26 ans que je me suis posé la question, 27 ans que je me suis posé la question d'être prêtre, même si j'y avais pensé étant enfant, et puis après c'était assez sorti de ma tête, en particulier pendant mes temps d'études. Mais voilà, je reste un homme très 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 heureux et voilà, désireux de manifester que l'Évangile, que la vie du Christ, que aussi ce que fait l'Église peut être une bonne nouvelle pour tous, pas seulement pour les catholiques. Donc peut-être un propos tel que vous m'aviez promis sur la conférence des évêques et puis quelques défis que je vois aujourd'hui pour l'Église et pour la société. Bien sûr, je mesure bien et je pense que dans votre parcours, vous l'avez à travers vos différentes rencontres, chacun d'entre nous, on a une relation singulière, particulière avec les sujets que vous travaillez, les sujets que vous rencontrez, et c'est pas rien de différentes religions. Chacun de nous a un rapport particulier avec la foi ou n'en a pas, avec la transcendance, avec l'au-delà, mais aussi dans la perception de la place des religions qu'on a chacune d'entre nous. Je vais donc essayer de parler malgré tout à chacun d'entre vous, mais en étant bien conscient que pour certains, ça sera peut-être une découverte, et pour d'autres, peut-être moins. Simplement, je vous propose, et je ne vais pas vous demander de le dire à haute voix, mais quand on dit le mot église, à quoi on pense? Église. Est-ce que c'est un mot, une idée, une image, une personne? Simplement qu'on puisse se dire intérieurement à quoi ça nous fait penser. Pour avoir fait cet exercice avec d'autres personnes et en les ayant invités à me dire à quoi ils avaient pensé, je ne sais pas si on peut le faire ici, mais on peut si on le souhaite, ceux qui le veulent. Ou, en tout cas, bien souvent, on me répond un bâtiment qu'on a visité récemment par la beauté du bâtiment ou... Je suis frappé souvent, on dit, ben voilà, il y a le silence, une église, dans nos villes ou dans nos campagnes, voilà, c'est souvent marqué par le silence. Ça peut être une organisation, je dirais, humaine, officielle. Peut-être certains ont pensé à l'Église de France aujourd'hui, la question des abus ou d'autres sujets graves ou plus heureux. Ça peut être un événement heureux ou difficile. La participation à un mariage ou son propre mariage à l'église, certains rendez-vous quotidiens dans la prière ou dans le rassemblement dominical. Pour d'autres encore, le mot église, ça fait penser au pape ou à telle personne médiatique. Alors, il y a quelques années, des jeunes me disaient l'abbé Pierre. Aujourd'hui, je ne sais pas à qui bon, ils ne le connaissent plus, mais voilà, ou bien, au contraire, et ça, on l'entend beaucoup quand on est prêtre en paroisse, au moment en partie d'obsèques, mais ça peut être une personne. Voilà. Bien évidemment, quelqu'un de plus proche. Enfin, vous voyez, derrière le mot église, finalement, on met beaucoup de réalité. Et c'est évidemment tout ça. Aussi, le mot église, alors qu'on l'écrive avec un grand E ou un petit E, c'est toutes ces réalités qui disent l'église. Je suis attentif à ce que je puisse rendre compte de ce que je dis. Je serais très intéressé par vous entendre tout à l'heure, par vous entendre vous, de ce que vous percevez de l'église, de ce que vous attendez peut-être d'elle ou pas. Alors, vous savez, dans l'évangile, à un moment donné, dans l'évangile, Jésus pose la question à ses disciples en disant pour les gens donc, qui rencontraient les disciples, pour les gens, qui suis-je, qu'est-ce qu'on dit de moi? Puis après, il pose la question plus personnelle, qui suis-je? Mais je trouve toujours très intéressant, enfin nécessaire, bien sûr, de rendre compte de ce que nous sommes. Je suppose que quel que soit votre métier ou votre engagement, c'est vrai, qu'on soit dans le monde de l'entreprise, dans le monde de l'édition, dans un ministère, comme parlementaire, qu'est-ce qu'on dit du travail que nous faisons, qu'est-ce que nous en disons nous-mêmes. Et puis, enfin, moi, je suis très, très intéressé, vraiment, par entendre, en particulier des personnes qui ne seraient peut-être peu familiers de notre vie quotidienne, par entendre aussi comment les personnes perçoivent l'Église. Alors, l'Église, ce n'est pas une association, même si la structure administrative et nos diocèses sont organisés en association diocésaine, mais ce n'est pas d'abord une association, c'est pas un lobby, c'est pas une ONG, c'est pas un peu de cela, mais c'est encore autre chose, l'Église. L'Église, peut-être Madame Balèze vous l'a présenté hier, mais hein, le mot Église, c'est un mot qui vient du grec et qui vient aussi d'abord de l'hébreu, kal ou ecclésia, c'est l'assemblée. C'est un peuple convoqué par Dieu pour constituer une fraternité. Donc vous voyez bien que dans cette définition, appelé par Dieu pour constituer une fraternité, il y a un peu déjà une tension entre quelque chose du don, quelque chose que nous n'avons souvent pas choisi au départ, c'est un appel particulier, et en même temps, c'est une responsabilité. C'est quelque chose qu'on reçoit, et puis en même temps qu'on est invité à construire. L'Église, évidemment, elle a beaucoup d'autres personnes, et heureusement, elle ne se réduit jamais à ce que je peux en dire ou à ce que je peux en faire. Elle nous est donnée, elle est construite, c'est notre conviction de croyante, de dire elle est construite, elle est conduite par Dieu, et en même temps, Dieu nous invite aussi à y participer, à construire, à la construire, à la déployer, à la développer. Vous voyez, voilà, quelque chose qui est rassemblé par Dieu et puis en même temps à construire. Je prends un autre exemple, une autre image, c'est le signe de la croix. Évidemment, c'est l'un des premiers signes, Balèze vous en a peut-être parlé, de reconnaissance des chrétiens au début du christianisme, hein, dans un monde de persécution. Il y avait le poisson, c'était un signe ictus, bon, elle vous a peut-être parlé de tout ça. Mais, d'accord. Et en tout cas, le signe de la croix, voilà, il y a la verticalité quand on fait son signe de croix sur soi ou sur des personnes, quand on fait un signe de croix sur le front d'une personne âgée qui, voilà, ou d'un bébé, ou quand on fait un signe de croix sur un objet, parce que voilà, parfois on fait un signe de croix, vous voyez, sur un évangile, parce que pour nous c'est un livre, mais c'est un livre inspiré et en même temps écrit par des hommes et des femmes, par des croyants. Et à travers ce livre-là, qui est la Bible, on y reconnaît vraiment la parole de Dieu. C'est un livre particulier dans notre bibliothèque. Et le signe de la croix, pour nous, c'est vraiment la verticalité de la transcendance. Nous sommes enfants de Dieu et de l'horizontalité, le signe de la croix, verticalité et horizontalité. Donc, voilà, la relation à Dieu et la relation frère, qui sont indissociables. Et quand il en manque un, eh bien ça va plus. Enfin, on n'est plus dans la foi telle que le Seigneur nous le dit. Alors l'Église, hein, c'est un corps vivant est né au matin de la Pentecôte, au moment où les apôtres, hein, vous souvenez peut-être de cet épisode, les hommes, les femmes qui ont vécu avec le Christ pendant 3 ans. et qui, de par son témoignage, ses paroles et l'exemple enfin, de sa vie, ont eu leur vie transformée. Et au matin de Pâques, après la mort de Jésus, des femmes vont au tombeau, alors que les hommes avaient peur, étaient planqués. Et les femmes vont au tombeau et reviennent annoncer la bonne nouvelle. Et depuis, c'est cela l'Église, c'est des hommes, des femmes qui ont vécu dans le passé et aujourd'hui une relation particulière avec le Christ, avec l'Église, avec Dieu, avec d'autres chrétiens. Qui décident d'en témoigner, d'en vivre. Il y a moins de baptêmes de petits-enfants. Aujourd'hui, en France en particulier, il y a une augmentation depuis une vingtaine d'années du nombre de catéchumènes, des adultes qui demandent soit le baptême parce qu'ils n'ont pas été baptisés, ou demandent de la catéchèse pour adultes parce qu'ils ont été baptisés mais sans catéchèse. Voilà. Et donc, il y a une augmentation forte de ces plusieurs milliers chaque année de catéchumènes. Voilà, donc c'est très important de manifester aussi que voilà, c'est pour moi l'Église, elle se trouve où ? Elle se trouve dans le cœur de ces hommes et de ces femmes qui décident, parfois bien souvent courageusement, on pense à d'autres pays dans le monde. Moi je ne soutiens absolument pas l'idée qu'on soit persécuté, un État qui permet la liberté de culte, mais des hommes, des femmes, alors même si c'est parfois difficile de dire, y compris dans notre société ou dans certaines occasions, il faut aussi du courage pour dire la foi dans notre société aujourd'hui, mais en tout cas dans d'autres pays dans le monde, c'est vrai que le lien. Une vie donnée, on dit souvent que le XXe siècle, ça a été le siècle où il y a le plus de martyrs dans le monde. Alors, on avait du mal à estimer dans les siècles passés, mais c'est quand même frappant. On pourrait dire aussi, et on en reparlera sans doute tout à l'heure, mais avec l'islamisme, touche aussi en premier lieu les musulmans eux-mêmes. Et donc, beaucoup de musulmans sont eux aussi victimes de ces. Nous sommes permis de commencer.
Je vous en prie,
voilà. Bienvenue. Les chrétiens dans le monde, c'est le tiers de la population mondiale, en augmentation sur beaucoup de continents. Et en effet, en France ou en Occident, qui fait que, en particulier, il y a moins de croyants. Mais le nombre de chrétiens et de catholiques aussi dans le monde augmente. Simplement un exemple, Vatican II, dont je vais parler un instant, un grand concile qui, pour comprendre ce que doit être l'Église au sorti du traumatisme et de cette Seconde Guerre mondiale qui a complètement tout chamboulé, eh bien l'Église dit, on entre dans une nouvelle ère. Comment être Église, comment faire Église, comment annoncer Dieu, comment rejoindre les gens qu'il y avait peut-être de la distance, ou comment témoigner de cette bonne nouvelle au monde d'aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle un concile, c'est un rassemblement de tous les évêques du monde pour que, ensemble, avec des experts laïcs ou religieux, d'autres confessions ou d'autres religions, pour dire qu'est-ce que Dieu nous dit et qu'est-ce que nous avons à dire au monde. Ce que je disais au début de mon interview. Et après, pas simplement l'écouter dans sa chambre ou dans son cœur, ce qui est indispensable, mais après, comment aussi en témoigner. Il y a dans les années 60, donc 62-65, c'est 2, il y avait 2500 évêques dans le monde. Aujourd'hui, ils sont 5000. Pourquoi l'augmentation, le doublement d'évêques dans le monde? C'est que l'Église s'est déplique ou dans d'autres continents, par rapport à des très grands diocèses, on crée des sous-préfectures, si on pourrait dire, ou de nouveaux diocèses, pour que l'évêque et le successeur des apôtres puisse être proche de son peuple. C'est vraiment une intention forte du Concile Vatican II. C'est pour ça, par exemple, en région parisienne, avant il y avait le diocèse de Paris, le diocèse de Versailles, aujourd'hui il y en a 8, enfin 7, pour permettre. Le diocèse de Nanterre, 1,6 million d'habitants. Il y a 50 ans, on était peut-être à 1,3 million, je n'ai pas tout à fait les chiffres, en tout cas, voilà, forte augmentation vivant en région parisienne. On dit, ben, un évêque, il ne faut pas que ce soit quelqu'un d'éloigné, il faut que ce soit quelqu'un de proche pour, là encore, au nom de l'Église, au nom du Seigneur, conduire son... voilà. Alors, l'Église, où on la trouve, ben, tout à l'heure, dans ce que nous avons pensé chacun, peut-être dans notre tête, sur l'image de l'Église, peut-être avant de dire c'est quoi, où on la trouve, ben, on la trouve évidemment le dimanche matin, quand on rentre dans une église et qu'on voit cette communauté rassemblée. Moi, souvent, à des jeunes, quand j'étais aumônier, des jeunes n'étaient pas baptisés, mais venaient avec des copains, parce que des jeunes lycéens ou adolescents disaient, ben, tiens, nous, à l'aumônerie, on trouve un lieu de soutien, d'amitié, on mangeait des pizzas, bon, bref. Mais un lieu, en tout cas, fraternel. Des jeunes qui venaient parfois disaient, ben voilà, viens voir ce que c'est que, pour savoir ce que c'est que la foi, viens voir une communauté chrétienne rassemblée. Alors c'est pas le seul lieu, mais c'est, ben, quand on rentre dans une église, on voit des gens très différents, de tous les âges, qui se sont pas choisis et qui sont en même temps invités à construire une fraternité. C'est comme quand on est prêtre, hein, on rentre dans un presbytérium, c'est un camp de prêtres. Bon, c'est pas choisi, moi au séminaire, j'ai des hommes, j'ai dit des femmes parce que j'ai fait mes études à la Cato de Paris. Et effectivement, pendant les cours, j'ai eu cette chance de ne pas être camp de séminariste, mais avec des hommes, des femmes, des religieuses et des religieux. Donc, en tout cas, une communauté chrétienne rassemblée, des personnes qu'on n'a pas choisies. Et pour autant, qui sont très diverses, socialement, culturellement, politiquement. Et qui sont invités à... Et ça, c'est vrai que, voilà, dans ma vie personnelle, ce rassemblement eucharistique a toujours été pour moi un lieu essentiel, y compris dans mon étonnement de ce que l'Église peut faire à ce moment-là. Quand on fait partie d'un club de foot, et c'est super, et on fait souvent des choses par choix, ou dans un parti politique, parce qu'ils vont penser un peu la même chose. Même s'il y a des différences dans les mouvements, on le sait bien. Mais en tout cas, voilà, je trouve que dans la société, je trouve que c'est un peu unique. Alors, on pourrait dire aussi l'école, mais l'école, certains font le choix, on le sait bien, c'est un des sujets de la loi du séparatisme, ne plus mettre l'enfant à l'école, ou le mettre dans le hors contrat, ou le mettre dans l'école catholique, ou dans le public. En tout cas, voilà, moi je trouve que c'est un des lieux, alors on est unis évidemment par la même conviction que Dieu est présent et qu'il est dans notre vie et qu'on veut en témoigner, et en même temps, c'est un peu un lieu unique dans notre vie de société, d'une telle, quand même, variété dans une communauté rassemblée qui cherche en même temps l'unité. Donc l'Église, on la trouve le dimanche matin, mais on la trouve aussi dans un bénévole, dans une association qui est catholique ou pas, qui va faire du soutien scolaire, qui va rencontrer les femmes musulmanes à travers le Secours catholique, un jeune qui va s'engager dans le scoutisme pour être chef scout, pour d'autres, et qui va passer du temps, des jeunes qui vont faire... c'est vrai que parmi la génération des 20-30 ans, ils sont très minoritaires. Hein, on estime à peut-être 2% de jeunes cathos qui sont en tout cas engagés dans une vie de foi. Et en fait, très différent peut-être de ma propre génération, très engagés, y compris dans des sujets de proximité avec les plus pauvres, de soucis écologiques, j'en reparlerai tout à l'heure. L'Église, elle se trouve où ? Elle se trouve aussi dans un entrepreneur qui cherche à conduire son entreprise en s'inspirant de l'Évangile, parce que vous savez qu'il y a toute une dimension dans le cadre de la laïcité dont on pourra parler tout à l'heure. Nous ne pensons pas qu'évidemment la religion doit se vivre uniquement dans un cadre privé, mais aussi que les cultes, les religions peuvent et le font grandement participer à la vie publique, en particulier dans le soutien des plus pauvres, des plus fragiles, mais pas que. En tout cas, comme aussi donner du sens, dire quelque chose de l'homme, de ce qui nous semble bon pour l'homme. Tous ces domaines de l'enseignement social de l'Église qu'on connaît peu, parce que souvent on nous interroge sur des sujets peut-être un peu récurrents, et parfois de morale sexuelle. Évidemment, on a raison de nous interroger sur ce qu'on a fait ou pas fait, sur des drames que beaucoup trop de personnes ont pu vivre à cause de certaines personnes de l'Église. Mais voilà, l'enseignement social de l'Église, c'est aussi tout ce que dit l'Église du fonctionnement politique. Hein. On vous a donné, d'ailleurs, grâce à Charlotte, on vous a donné plusieurs documents. Bien sûr, un document sur la bioéthique, mais aussi la lettre de notre président de la conférence des évêques et Éric de Moulin-Beaufort, qui est archevêque de Reims, qui, vous le savez, pendant les visioconférences avec le président, les cultes étaient invités à le rencontrer. Et à la fin d'une dernière visio, président Macron a dit contribuer au monde d'après. Enfin, je ne sais pas, il n'a sans doute pas dû dire le monde d'après, mais en tout cas, voilà, à la période qui s'ouvre, on voit bien qu'on va s'inscrire dans un temps long, pas seulement, en tout cas pour l'Église, pas seulement lié au Covid. Mais la Covid a sans doute accéléré des processus qui étaient déjà chez nous depuis quelques années ou depuis quelques dizaines d'années, dont on pourra reparler tout à l'heure. Mais voilà une contribution que l'Église a souhaité donner au président Macron et au gouvernement. Voilà, bien évidemment, je parle de l'Église, en particulier depuis Vatican II, mais déjà avant. On a rappelé récemment Saint François d'Assise, voilà, en particulier sur les questions d'écologie, mais aussi de cet homme qui voulait rencontrer d'autres religions, qui avait rencontré en son époque, en particulier depuis Vatican II, mais déjà bien avant. On reconnaît dans toute personne qui cherche à faire le bien, qui a une conscience droite, qui cherche en tout cas à avoir une, comme chacun d'entre nous, évidemment, des traces ou la présence de Dieu, sans en faire des chrétiens, mais en tout cas pour nous, évidemment, et aussi chez les non-chrétiens, parce qu'il y a aussi beaucoup de non-croyants ou de personnes qui sont, évidemment, c'est toujours mieux de le redire, que dans toute personne, voilà, que d'abord, toute personne conscience dans laquelle qui pour nous est le lieu de le sanctuaire inviolable d'une personne dans son dialogue avec Dieu ou en tout cas avec voilà. Et donc c'est le respect évidemment de toutes ces trois images peut-être simplement pour continuer un peu l'Église au Vatican II, donc je vous ai déjà parlé, trois titres en particulier de l'Église: le peuple de Dieu, le temple de l'Esprit, le corps du Christ. Trois images avec lesquelles l'Église a voulu se présenter. Vous voyez bien qu'en 2000 ans, il y a des fondamentaux, si on peut dire, il y a des choses que... Mais après, la manière de dire les choses, la manière de présenter aujourd'hui, nécessite des mots nouveaux. On ne parle plus... Je vais prendre un exemple. J'étais donc 10 ans paroisse. La préparation mariage... On ne la fait plus comme on la faisait il y a 50 ans, où la majorité des personnes étaient baptisées, étaient de culture chrétienne. Moi, je crois que la culture chrétienne reste très, très ancrée, et l'attachement des Français est très fort sur l'église de son visage, ou de son village, ou beaucoup de visages qu'on a pu rencontrer, ou aussi beaucoup de Français qui se réclament en tout cas du catholicisme, en tout cas qui se disent catholiques, mais... En même temps, aujourd'hui, quand on a des jeunes fiancés dont l'un n'est pas baptisé et l'autre est baptisé mais pas catéchisé, ce qui arrive souvent, mais qui ont vraiment le souhait de vivre, de recevoir et de se donner, puisque le sacrement du mariage, c'est un couple qui se donne le sacrement et puis le prêtre ou le diacre le bénit, mais pour nous, on ne va pas que parler conjugalité, parentalité, ou on va peut-être passer d'abord une heure en présentant un petit film sur Jésus, ou dire, moi je suis souvent avec eux, même pour les cathos de temps en temps, mais je leur faisais visiter une église, parce que je trouve qu'à travers la visite d'une église, il y a une catéchèse à faire. Pourquoi d'abord il y a une église? Pourquoi quand on rentre il y a un sas? Pourquoi il y a un bénitier? Pourquoi il y a souvent c'est le sens d'une croix, une église? Pourquoi il y a des vitraux? Enfin voilà, bon bref, pourquoi l'autel est un petit peu souvent au bout de quelques marches? Bon. Bref, ça permet de... Et donc, c'est aussi un enjeu pour nous, mais je crois aussi un enjeu pour notre place dans la société, de mieux rendre compte, et ça, parfois, on ne sait pas bien le faire, de mieux rendre compte de notre place, de notre propre vie, particulièrement sur la question, par exemple, de la place des femmes, par exemple. Je pense qu'on ne sait pas suffisamment rendre compte que... Alors, c'est vrai qu'on donne à voir une messe, c'est des prêtres qui célèbrent. Voilà. Mais à côté de ça, dans notre vie quotidienne d'église, sans doute qu'on a à progresser sur montrer la vie de l'église. Donc, trois images, peuple de Dieu, un peuple, donc voilà, je l'ai dit, rassemblé de différents pays, voilà, évidemment selon les pays, mais moi quand j'allais célébrer à Gennevilliers ou à Villeneuve-la-Garenne ou dans des quartiers de Nanterre, c'est évidemment pas les mêmes communautés qu'à Ville-d'Avray ou à Neuilly, et Voilà, c'est la diversité vraiment dans des personnes qui participent et c'est vraiment un sujet. D'ailleurs, c'est un des derniers chapitres de mon sermon de l'hospitalité, aussi avec la question des migrants, qui est une question, il me semble, et ça vous êtes beaucoup plus compétent que moi, qui sera aussi quelque chose de durable et qui soulève aussi beaucoup d'enjeux. Et là aussi, l'Église dit des choses sur cette question-là, mais en tout cas. Voilà, question de ce peuple de Dieu qui se manifeste aussi en particulier dans des rassemblements universels, hein, quand on fait des jeunes du monde entier qui essaient de vivre du Christ, qui cherchent à le suivre, à l'écouter, à le prier, à le servir, et en même temps dans des diversités tellement grandes. Mais c'est vrai aussi en France, hein, c'est un des lieux ici de la conférence des évêques où se partagent des réalités très différentes entre un diocèse très rural, un diocèse très, très urbain, un diocèse d'un territoire d'outre-mer. Avec voilà, en difficulté ou bon, socialement. Enfin, voilà. Le corps du Christ, donc là, l'idée du corps, hein, c'est l'idée de saint Paul, de dire voilà, il y a plusieurs corps, il y a plusieurs membres dans ce corps, la tête c'est le Christ, et nous sommes tous baptisés au ministre ordonné, au service de. Au service, enfin, à chercher, à écouter la parole du Christ et de Dieu et à suivre son. À suivre son enseignement, les différents corps. Donc, quand on parle d'église, hein, on parle souvent paroisse. Moi, j'insiste souvent pour dire que c'est aussi la vie des mouvements et la présence de la vie consacrée. Et là, malheureusement, je disais que cette maison, c'était une maison religieuse avant. On le sait bien dans les quartiers, vous devez le voir aussi sans doute dans vos responsabilités, mais pour certains, en tout cas, la vie de femmes ou d'hommes consacrés est très près. Moi, je vois bien dans le diocèse de Nanterre, en particulier dans les quartiers populaires. Quand une communauté de femmes habite dans un HLM, eh bien, c'est parfois plus compliqué de parler des hommes. Elle me disait, elles sont encore nombreuses à être là, mais malheureusement, c'est aussi une figure qui peut tendre à disparaître du manque de consacrés. Mais c'est aussi là aussi un lieu très important de présence et de visage de l'Église. La vie des mouvements, que ce soit, hein, la vie conjugale, que ce soit des mouvements du scoutisme, que ce soit des mouvements pour la vie professionnelle, voilà, toute cette vie est aussi vraiment une vitalité de l'Église ou des mouvements aussi de soutien, des baptisés. On peut penser à la communauté du Chemin Neuf, la communauté de l'Emmanuel, d'autres communautés qui sont nées en gros depuis 50 ans de la vie chrétienne. Puis, voilà, donc. Peuple de Dieu, temple de l'Esprit, puisque c'est bien lui que nous cherchons à écouter et qui nous conduit, et puis le corps du Christ. Une église hiérarchique et charismatique, peut-être c'est encore un autre aspect que je voulais à l'église de Pierre, évidemment, hein, l'évêque de Rome. De par le fait que voilà, Pierre ait été martyr à Rome. Bonjour, bienvenue. Nous avons commencé à parler de l'Église. Et donc, voilà, l'Église hiérarchique et charismatique. Souvent, quand on parle de l'Église, on pense l'Église romaine et celle de Pierre. Et c'est vrai, voilà, à Pierre, apôtre, qui est évêque de Rome. Et à ce titre-là, qui est au service de tous les évêques dans le monde. Donc, l'évêque de Rome a cette particularité d'être le serviteur des serviteurs. C'est un de ses titres qui est très beau. C'est que l'évêque de Rome, il est au service de la communion de l'ensemble des évêques. Et c'est pour ça que c'est lui qui nomme les évêques dans le monde, les 5 000 évêques. Bien sûr, après, tout un processus de discernement et de nomination qui associe beaucoup de personnes. L'église de Pierre et l'église de Rome, qui est en particulier Pierre envoyé pour l'évangélisation des nations païennes, ou Paul, on pourrait dire, c'est plus peut-être l'église charismatique, voilà, l'église dont je viens de parler aussi, des congrégations, des mouvements. Voilà. Donc c'est peut-être qu'il faut tenir un peu ces deux figures fondatrices. Hein, l'Église, pour moi, elle est fondée sur les deux, hein, sur Christ, mais hein, sur ces deux figures aussi. On parle souvent de Pierre. N'oublions pas Paul, qui l'un et l'autre d'ailleurs dans les Actes des Apôtres, on voit bien qu'ils peuvent parfois ne pas tout à fait être d'accord. Mais peut-être Madame Balès vous en a parlé aussi hier. Mais en tout cas, voilà, une Église fondée là encore, hein, sur deux figures qui sont pas identiques et qui disent. Chacune d'elles, peut-être Avant de vous parler de la conférence des évêques et puis avant d'arriver au troisième point, quelques défis, pour c'est de situer un peu un peu l'Église d'aujourd'hui. Je le disais tout à l'heure, voilà, il y a encore 65% de Français qui se disent catholiques. On peut à peu près donc ça fait un certain nombre de prêtres, 14 000, mais qui sont en diminution. Vous voyez, 14 000 prêtres diocésains religieux, 12 000 laïcs salariés. Alors, 12 000 salariés laïcs, dont beaucoup sont à mi-temps ou un tiers-temps, ce qui fait à peu près 5 600 équivalents temps plein. 30 000 religieux religieuses, dont j'ai déjà pas mal parlé. Voilà, ces évolutions, vous le voyez bien dans le paysage de nos villes, invitent, mais comme depuis toujours, l'Église à inventer aussi des nouvelles formes de présence et en tout cas à chercher de la créativité. Le pape François, dans une de ses premières encycliques, La joie de l'Évangile, invitait à... Enfin, vous pouvez critiquer certains conseils qui nous accompagnent dans la vie paroissiale, dans la vie diocésaine ou ici à la conférence des évêques en disant « on a toujours fait comme ça ». C'est peut-être vrai aussi dans vos métiers. Et voilà, quelle capacité avons-nous ici de dire... Et c'est difficile, hein, de dire on arrête certaines choses, parce que souvent, en fait, moi je me rends compte que souvent on empile. Alors on a des nouvelles idées qui sont bonnes, mais on a beaucoup de mal à arrêter, parce que voilà, on est les mêmes, et en même temps disponibles, et souvent même nous sommes moins nombreux à le porter. Enfin, je trouve que c'est une vraie question dans le monde de l'entreprise aujourd'hui, pour être assez proche de ce monde-là. Je trouve que souvent on donne plus de travail à quelques-uns, alors qu'il faudrait peut-être en donner plus à un plus grand nombre. Mais en tout cas, la question de... Nécessairement, il y a sûrement des choses à continuer, à inventer. Je prends un exemple ici, en particulier lié à l'encyclique du pape Laudato Si, qui a eu un fort rayonnement. La question de l'écologie, qui était ancienne, mais qui a été mise en lumière, vous voyez, par le pape. Il a dit, voilà, il a senti que c'était un sujet... C'était parfaitement ajusté, puisque c'était juste avant la COP21. Donc là, il y a une circonstance aussi de communication et d'intuition qui a été vraiment rejoint aussi par un sujet public, par un sujet politique, par un sujet social. Et bien ici, dans la maison, il y avait une personne, un peu à mi-temps, qui s'en occupait. Ben, on a dit, voilà, un sujet nouveau, comment on va pouvoir déployer cette question? Et du coup, il y a eu une personne, on a pu du coup embaucher une personne qui aujourd'hui est à temps plein sur cette question-là. On en pourra en reparler tout à l'heure, mais... Voilà, comment est-ce qu'on est aussi, on reste disponible à sentir les signes des temps pour dire là, il y a quelque chose que dans un point, un sujet sur lequel l'Église pourrait contribuer au bien commun. C'est ça aussi, bien évidemment, dans la doctrine sociale de l'Église, c'est le bien de tous. Et c'est ce pourquoi nous essayons de. Pour continuer quelques chiffres, 1 million de donateurs, bon, qui ont, là aussi ces dernières années, c'est un petit peu baissé, mais là encore, moi, je pense que face à des chiffres qui peuvent être parfois un peu difficiles, comment ne jamais se résigner, la baisse du catéchisme dans certaines paroisses, les prêtres ont dit, tiens, on va essayer d'être au forum des associations avec le groupe scout qui est présent pour dire, vous savez, tiens, vous pouvez peut-être, votre enfant peut venir, à peu près 650 millions de ressources. Vous savez bien que l'Église ne reçoit pas de subvention de l'État, mais que l'État ou les collectivités locales des églises dont elles sont propriétaires, après 1905, on a retiré la propriété des églises, et souvent d'ailleurs de biens qui permettaient aussi l'entretien, mais nous sommes dans ce statut-là, et moi il me convient très bien. Merci à l'État qui peut entretenir des cathédrales, merci aux communes qui souvent entretiennent des églises, même quand il n'y a pas beaucoup de monde. Voilà, donc, je le dirai tout à l'heure, par rapport à ce qu'est la conférence des évêques, un des lieux, bien sûr, de discussion, et Charlotte y a participé encore il y a 2 semaines, avec le ministère de la Culture, et vous avez sans doute su que le ministère va augmenter une subvention donnée aux cathédrales chaque année, parce qu'il y a évidemment des entretiens à faire. Mais, dans les ressources de l'Église, il y a le denier, il y a les quêtes, il y a le casuel, et évidemment, comme toute réalité économique de notre société, une année très difficile pour nous. puisque alors les salariés, heureusement, qui sont dans un cadre tout à fait légal, ont pu bénéficier de l'aide de l'État, mais alors jusqu'au 31 décembre, mais voilà, aujourd'hui en tout cas une perte de 60 millions, donc c'est voilà, là aussi des enjeux pour les diocèses de sans doute de diminution de charges ou aussi d'être plus créatif. Ces dernières années, vous voyez, on a été beaucoup plus présents sur les réseaux sociaux et là, du coup, on a trouvé des nouveaux donateurs. Maintenant, dans les églises, dans beaucoup d'églises, en tout cas, on a un petit terminal de paiement, en tout cas en ville, ce qui permet aux personnes de participer au. J'avance. La conférence des évêques, pour nous laisser du temps, je crois que vous partez à 10h30, donc on aura encore du temps. La conférence des évêques, vous avez, qu'on vous a donné, un petit organigramme. Je ne vais pas le commenter complètement. On peut prendre juste vous voyez, ces deux pages bleues, là, au début, peut-être simplement pour dire que la conférence, à peu près une centaine d'évêques en France, et avec aussi, il y a 93 diocèses en France métropolitaine, il y a un diocèse qui s'appelle la Mission de France. La Mission de France, c'est voilà, des prêtres qui ont été créés aux sorties de Vatican II pour être justement dans missionnaires. Il y a le diocèse aux armées. Il y a aussi des évêques des collectivités d'outre-mer. Donc à peu près une centaine, c'est pas tout à fait vrai, mais voilà, par département. Avec aussi un certain nombre d'évêques émérites, là aussi avec l'allongement de la vie, bah nous aussi on est confrontés. Enfin, c'est un enjeu pour nous, 80 évêques émérites sur 100 actifs. Donc voilà, évêque émérite, ça veut dire hein, à partir de 75 ans, un prêtre normalement, qu'il soit évêque, qu'il soit prêtre ou évêque, eh bien n'a plus qu'à rester évêque jusqu'à sa mort, mais il n'est plus curé, il n'est plus vicaire, comme ça à 75 ans. Oui, on a un peu d'avance sur la société, puisque voilà, nous l'âge limite l'âge de la retraite est déjà 75 ans pour nous, mais en tout cas, quelle mission peut donner aussi un évêque émérite. Alors la conférence, vous voyez, c'est deux fois par an, tous les évêques de France qui se réunissent à Lourdes pour une assemblée. L'assemblée plénière, c'est l'organe de gouvernement, de décision de ce que l'Église doit faire, en gros, au niveau national. Donc je vais vous citer des sujets de la prochaine assemblée, puisque ça sera au mois de novembre. Alors, bien sûr, on respecte la subsidiarité, c'est-à-dire après chaque évêque dans son diocèse, peut déployer ces sujets. Mais vous voyez, c'est des sujets vraiment importants pour lesquels on dit, voilà, l'Église de France doit s'engager sur ces sujets. Il y a des votes. Moi, par exemple, comme secrétaire général, j'avais pas tout de candidat parce que tout ça, c'est décidé en un mois. Mais on élit, hein, il y a beaucoup d'élections dans le fonctionnement de l'Église de France ou dans l'Église universelle. Hein, il y a beaucoup de votes, évidemment dans les monastères, hein, les monastères, le père abbé ou la mère abbesse, c'est un vote. Le président de la conférence monsieur avec le pouvoir, comme les deux vice-présidents, et ce qu'on appelle le conseil permanent, c'est-à-dire le conseil des ministres, un peu 10 évêques parmi les 100 qui sont choisis pour, on se voit ici 3 jours par mois pour un peu tenir le quotidien, eh bien eux aussi sont élus avec des critères différents pour une répartition des critères d'âge et des critères de taille de diocèse. Deux fois par an, et elle vote. Donc, les sujets que nous allons aborder, c'est le sujet de la communication de l'Église, puisque la personne qui ici est responsable de la communication est en fin de mission, il finit ses 6 ans. Des sujets sur l'enseignement catholique, très présent en France, évidemment, et qui là aussi a des enjeux de prospective pour les 5 prochaines années. Des endroits, des territoires où il y avait beaucoup d'élèves, et puis avec la diminution de nombre d'habitants, on est un peu contraint par les 20%, puisque 20% d'élèves peuvent être accueillis dans l'école catholique, mais pas plus. Et dans certains territoires, on pourrait en ouvrir d'autres écoles, et puis d'autres. Voilà, donc des questions de répartition. On aura bien évidemment à poursuivre le sujet du travail des abus commis dans l'Église. Donc ça, il y a les groupes de travail qui se sont constitués d'évêques, de prêtres et de victimes pour travailler cette question, en particulier les groupes de travail, sur la question de la reconnaissance du mal qui a été fait, avec en particulier dans la reconnaissance une question financière. La question de la prévention de tous, bien évidemment des prêtres, mais aussi des catéchistes ou voilà, de tous les acteurs dans la... Parce que, bien évidemment, la question des abus, c'est l'affaire... c'est la responsabilité des évêques. Mais aussi, on voit bien dans les affaires d'abus, souvent, les familles elles-mêmes, on n'avait pas pu réagir, on n'a pas beaucoup dit des choses. Donc moi, je pense que sans du tout nous dédouaner, c'est de notre responsabilité. Il y a aussi la responsabilité d'être tous plus vigilants. Et j'étais intéressé que Taquet s'est été et dit il faut qu'on fasse comme, et c'est son mot, il a dit sur l'exemple de l'Église avec la commission La Ciaz, avec Jean-Marc Sauvé, qui est un homme tout à fait remarquable, qui fait ce travail-là, et il fait son travail, mais voilà, de relecture et de contextualisation, pour dire aussi, la question aussi du suivi des auteurs, et puis la question de la mémoire des abus. Il y aura aussi un sujet intéressant à l'Assemblée plénière sur territoire et paroisse. Comment aujourd'hui, avec peut-être un peu moins de prêtres, ou dans de forces vives, comment continuer d'être présent? Est-ce qu'il faut faire du quadrillage, être partout présent? Enfin, ça, on a déjà donné la réponse. Ou bien, est-ce qu'on crée des pôles? Mais alors, du coup, la personne âgée ou la personne qui n'a plus de voiture, comment est-ce que dans un petit village, elle pourra quand même être visitée? Ou comment est-ce qu'elle pourra être soutenue dans sa vie humaine? Ou dans sa vie de foi? Alors qu'il n'y a plus beaucoup de présence chrétienne. Voilà. Vous voyez, territoire et paroisse, ça aussi, ça peut sûrement rejoindre des problématiques que les uns les autres vous portez, que vous allez travailler pendant votre session de... Alors là aussi, donc beaucoup de... Alors, bon, l'Église fonctionne beaucoup par conseil et commission, donc là aussi, je ne vais pas tout décrire, mais vous voyez, il y a... À gauche, les commissions, il se trouve que là, dans les commissions, il n'y a que des évêques. Et puis à droite, vous voyez des conseils, là, ce sont des lieux, parce qu'il nous semble important que de temps en temps, eh bien, les évêques entre eux, ou les prêtres entre eux, puissent aussi avoir des choses à se dire, à partager, sans associer immédiatement des laïcs, des femmes ou des hommes. Voilà. Il nous semble que c'est important qu'on ait de temps en temps des discussions aussi entre nous. Ici, on est dans la maison, on est 100 salariés, équivalent temps plein un peu moins, il y a 100 bénévoles au service de tous les diocèses de France. Hier, ça se fait deux fois par an, et toutes mes autres réunions, c'est toute ma semaine. Voilà, mais là, hier, j'ai voulu réunir les prêtres pour partager des choses aussi un peu spécifiques que nous portons. Mais voyez, les commissions, commissions sur la doctrine, sur la liturgie, sur la catéchèse, le catéchuménat dont j'ai parlé, les laïcs en mission ecclésiale, c'est-à-dire tous les laïcs qui reçoivent une lettre de l'évêque pour une mission particulière, comme aumônier de prison, aumônier de santé, bénévole pour faire de la catéchèse, pour accompagner des couples qui se préparent au mariage, pour accompagner des personnes qui demandent des obsèques, donc ça va être des laïcs qui vont accueillir cette famille, qui pourront conduire les obsèques, ou parfois il y aura un prêtre, voilà. Une commission sur la mission universelle, comment être davantage missionnaire, des conseils sur la pastorale des enfants et des jeunes, sur les questions juridiques qui sont très souvent sollicitées, parce qu'il y a des juridiques qui nous sont posées, la solidarité, évidemment, la diaconie, la conseil de la communication. Donc vous voyez, vous verrez, si vous avez le temps, vous regarderez ça. À chaque fois, on décrit un petit peu, voyez, la vie foisonnante de cette maison dont je suis le secrétaire général. Alors, un mot sur cette mission que je découvre, peut-être trois missions particulières, la préparation, l'organisation et le suivi du travail des évêques. Vous voyez, dans cette grande organisation, il y en a un qui plus particulièrement essaie de suivre, accompagné de beaucoup d'autres. Moi, j'ai 5 personnes adjointes, 5, il y a 2 prêtres et il y a 3 laïcs, dont une femme. Et puis ici dans la maison, il y a là aussi, pour parler de la structure de la maison, nous sommes peut-être une quinzaine de prêtres. Il y a 90 personnes laïques qui sont au service au service de l'Église. Voilà, en tout cas, je dis ça pour des personnes qui seraient tout à fait étrangères au fonctionnement de l'Église, pour dire typiquement dans une maison comme ça, il y a 15 prêtres, mais il y a 95 laïcs. Donc c'est. Une autre mission que je porte, c'est le suivi au quotidien de relations. Alors comme porte-parole évidemment avec les médias, mais aussi nous sommes 2, il y a un laïc qui est avec moi, qui est porte-parole. Avec aussi les autres cultes en France, le judaïsme, l'islam, président Macron nous a rassemblés il y a 10 jours à l'Élysée pour nous parler, c'était 2 jours avant sa prise de parole sur le séparatisme, eh bien nous étions invités. Donc moi, à ce moment-là, vous voyez, j'y accompagne le président de la conférence, Monsieur Moulin Beaufort, et du coup, comme on en a parlé de ce que nous avait dit et puis de là où nous attendait, et puis après, là, hier, j'ai envoyé un compte-rendu du Conseil permanent à tous les évêques de France pour que assez vite, ils soient au courant de ce qui se dit. Avec aussi les orthodoxes, les protestants, les évangéliques, bien sûr des relations politiques, qui là aussi Charlotte m'aide beaucoup, d'autres, Ben Ardel, qui est une personne très compétente dans tout ce qui est juridique. C'est vrai que là on essaye, et je pense que c'est un travail aussi qu'on a à faire avec Charlotte et puis avec d'autres personnes à la maison, à davantage écrire notre stratégie institutionnelle. Et quand je dis institutionnelle, je ne pense pas que politique, je pense économique, je pense culturel. On a un écrivain parmi nous. Moi, je pense que c'est très important la dimension artistique, et y compris dans les gens, pour les personnes les plus pauvres, comment on honore aussi cette dimension humaine de l'art, de la culture, qui est une dimension essentielle. Bien évidemment, il faut donner à manger, un toit. Mais voilà, enfin bon, bref, là, la culture est, je trouve, très importante aussi. Puis aussi, un vrai lieu, je trouve, d'expression de la foi, ou en tout cas de transcendance. Donc, quelle stratégie institutionnelle ? Pour l'instant, je ne peux pas trop vous la présenter. Elle n'est pas suffisamment, à mon avis, écrite. Parce qu'il faut l'écrire, et puis il faut après en prendre les moyens. Stratégie institutionnelle, il faudra faire des choix, parce qu'on a des moyens limités. Et dans l'avenir, on aura peut-être encore plus de moyens limités. Mais en tout cas, voilà. Donc, en tout cas, au sujet des questions politiques, hein, des relations fréquentes, là, tout à l'heure, juste après vous quitter, je vais croiser certains qui me connaissent, peut-être au ministère de l'Intérieur, Clément Rouchouz, le directeur du bureau des cultes. J'ai des liens avec le Quai d'Orsay, des liens avec un conseiller du Premier ministre. Alors, il se trouve que c'est un peu une chance pour moi, parce que nouveau gouvernement cet été, on a pu rencontrer avec Monsieur Moulin Beaufort, Premier ministre, donc à Matignon, il y a 3 semaines, bon, le président de la République. Donc, et puis on a des liens avec différents ministères. Là, on doit avoir le ministre. Vous voyez, quand on se rencontre d'abord, là, c'était des rencontres importantes, parce qu'avec Castex, par exemple, on s'est présenté, et puis après, pendant 1h15, le temps long qu'il nous a donné, on a pu dire nos préoccupations, et puis aussi nos attentes, et puis la collaboration. Enfin, on s'inscrit vraiment dans... D'ailleurs, c'est un des points. Moi, je pense qu'il faudrait que davantage aussi qu'on ne soit pas qu'une église qui dise non, mais parfois, peut-être que... il y a aussi bien des sujets sur lesquels on est tout à fait partenaire et en soutien aussi d'orientation du gouvernement. Sur d'autres sujets, évidemment, on peut aussi dire notre désaccord, ou après on s'inscrit complètement dans l'état de droit dans lequel nous sommes. Mais en tout cas, vous voyez, c'est l'occasion vraiment de parler dans ces relations régulières, mais pas très très fréquentes, c'est quand même pas tous les mois, tandis que à mon niveau, moi je peux davantage, comme un contact que j'ai un conseiller ministre de l'Intérieur, M. Thiraud, ça évidemment, ça fait un mois, mais vous voyez, on s'est déjà appelé 2 fois, et donc ça fait partie des bonnes relations et je crois aussi pour eux. Ça fait partie des relations très importantes, et dans lesquelles on est très heureux d'être des interlocuteurs aussi, comme acteurs de la vie sociale de... Il y a aussi ce qu'on appelle l'instance Matignon, quelque chose qui a été créé par les évêques, par évidemment l'État, en 2002, lorsque Jospin était Premier ministre. Donc l'instance Matignon, c'est le président de la République, c'est le nonce apostolique dont je n'ai pas parlé, un ambassadeur, qui vient d'arriver là, un nouveau, je ne parle pas de l'ancien, mais le nouveau ambassadeur est arrivé là au mois de mars, un homme tout à fait remarquable. Il y a aussi donc le président de la conférence et puis l'archevêque de Paris. Parce que dans un pays centralisé comme la France, bien, c'est vrai que le rôle de l'archevêque de Paris même si c'est bien aussi évidemment important.
Encore 5 minutes. 10h15 quasiment.
Et 15.
Et on doit partir à 30.
Bon, écoutez, on passe aux questions. Tout à fait. Je finis juste en disant ce que nous a dit Emmanuel Macron. Excusez-moi d'avoir été peut-être un peu trop long. Il nous a dit à Bernardin, qu'il attendait que l'Église fasse trois dons à la nation, celui de la sagesse dans l'humilité du questionnement, celui de l'engagement dans la vie de la société, elle notamment. Voilà, donc c'est des choses importantes. Voilà, merci beaucoup. Peut-être des questions, des précisions.